Est-ce que nous voulons courber nos têtes dans la prière? Chacun demande à Dieu de lui parler. Seigneur, communique-moi ta pensée. Et ce dimanche, nous sommes venus pour te louer, t'adorer, mais aussi pour t'écouter, nous parler. Parle au cœur de chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Amen. Oh, amen. Amen. Je viens avec un sujet que d'aucuns diraient, mais pasteur, nous aurions voulu que tu parles de ce sujet dans un cadre, dans tel cadre donné. Vous allez savoir pourquoi. Je vais parler sur le mariage est un don de Dieu. Le mariage est un don de Dieu. J'aimerais aussi dire que l'homme et la femme sont un don de l'Éternel. Quelqu'un dit amen. Amen. Je me suis dit, est-ce que j'ai raison de parler de ce sujet au culte? J'ai tergiversé, finalement, la conviction est venue de pouvoir aborder ce sujet. Lorsque nous invitons les gens au département des couples pour qu'ils viennent participer à la réunion, très peu viennent. Et pourtant, si normalement tous les couples venaient ici, nous remplirons la salle. Parce que nous sommes très nombreux qui êtes mariés et qui sont fiancés. Les gens ne viennent pas. Mais après, vous apprenez les choses que les gens vivent. Ça ne marche pas. Et quelquefois, vous apprenez seulement quand ils sont séparés. Ah, non, la femme a quitté la maison. Mais ils viennent à la parole éternelle. Mais c'est là dont la femme est partie. Ils n'ont jamais été à la réunion de couple. Mais pourtant, quand il y a la réunion de couple, on ne le fait pas en catimini. Donc, on annonce du haut de la chair. Donc, il faudra qu'on annonce aujourd'hui le problème de la réunion. J'invite en tout cas tous les couples mariés et fiancés. Et surtout pas qu'un ouvrier ne s'absente à cette réunion-là. Le mariage est un élément régulateur que Dieu a établi dans la société. Un élément régulateur. Il n'y a pas de famille quand il n'y a pas eu mariage. Or, la famille est, comme nous l'avons l'habitude de le dire, la cellule de base de la société. Or, il n'y a pas de famille sans s'il n'y a pas eu mariage. Regardez, le monde occidental aujourd'hui s'égare. Le monde occidental aujourd'hui est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que ce monde crache sur le mariage. Il crache sur la famille. Il ne voit pas l'importance du vrai mariage, le mariage authentique. Et ils connaissent le devoir aujourd'hui. C'est un monde en divagation. Ce monde est perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas à copier. Nous allons perdre l'équilibre que nous avons en Afrique. Non, le meilleur n'est pas de l'autre côté. Le meilleur n'est même pas en Afrique. Le meilleur nous est donné par la parole de Dieu. Ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu, ils vivront le meilleur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'équilibre, bien-aimé dans le Seigneur, nous est donné que par la parole de Dieu. Et si nous nous soumettons à la parole de Dieu, Dieu soutient notre société. Le mariage est un précieux cadeau de la part de l'Éternel à l'homme et à la femme. J'ai pris mon dictionnaire universel. J'ai lu la définition du mariage. On dit que c'est un contrat. C'est une union entre un homme et une femme. C'est le dictionnaire. Alors, généralement, l'homme, quand il commence à s'égarer des principes établis, l'homme, quand il commence à s'égarer des normes, il veut changer aussi ce qui était établi. Vous allez avoir les dictionnaires qui vont sortir les années qui viennent. On va essayer de modifier. Mais il y en a même d'autres qui pensent que dans l'église, on peut aussi retrouver un mariage différent de ce que la Bible dit. Ils vont être inquiétés par ce que la Bible dit, parce que la Bible parle clairement de l'homme et de la femme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se fabriquer leur Bible pour aller enlever ces détails-là. Ils vont essayer de trouver des explications. Mais bien aimé dans le Seigneur, même si vous effacez quelque chose, la conscience parlera encore. La conscience parlera. Le mariage est un précieux cadeau de la part de l'Éternel à l'homme et à la femme. Et Dieu a fait les choses de manière qu'aucun être ne puisse se suffire par lui-même. Tu ne peux pas te suffire par toi-même. J'étais en train de réfléchir hier et aujourd'hui. Quelquefois, on dit, non mais tiens, Les jeunes filles ne pensent qu'au mariage, ne pensent qu'au mariage, elles ne pensent qu'au mariage. Mais les jeunes gens aussi pensent au mariage, les jeunes hommes pensent aussi au mariage. J'ai compris pourquoi l'une des raisons. Il ne faut pas chercher le mariage pour le mariage, mais il ne peut pas y avoir. Vous allez voir si, où Paul est en train de. Je ne vais pas anticiper. Le mariage, comme je le disais, est un élément régulateur de la société. Parce que si les gens ne se marient pas, ils finissent par se débrouiller comment? Nous ne sommes pas dans une société de liberticide, une société où les gens veulent faire tout ce qu'ils veulent. Mais nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Et nous allons voir que le mariage est important à un certain moment de la vie de quelqu'un. À moins que Dieu te donne une certaine capacité de rester tel qu'est. Et si tu restes tel qu'est, il faut rester un vrai célibataire. Il ne faut pas être un faux célibataire qui se débrouille. Qui se débrouille, qui va avec des partenaires. Non, un vrai célibataire. Ou amen, amen. Un vrai. Tu ne touches pas l'autre. Tu restes un vrai célibataire. Pas des faux célibataires qui se débrouillent, qui se soulagent. Passez-moi l'expression. Et puis après, ils disent, oh, moi je suis célibataire. Tu n'es pas célibataire. Et savez-vous, là je suis en train de ramasser des choses comme ça. Savez-vous que lorsque un homme, quelqu'un couche avec une femme, ils sont déjà mariés à ce moment-là. Mon pasteur disait, quand tu es allé avec une femme, elle était enceinte, tu dois l'épouser. Et dans l'Ancien Testament, on était obligé d'épouser une femme que tu as violentée. Bien-aimé dans le Seigneur, notre monde est en train de se perdre du fait qu'on n'a plus aucun respect des choses établies par Dieu, notamment le respect du mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Je disais que Dieu a fait les choses de manière qu'aucun être ne puisse se suffire par lui-même. Et la solitude semble être l'un des obstacles difficilement surmontables qui ne peut trouver sa solution qu'au contact de l'autre. Dans Genèse 2, verset 18, Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est l'Éternel qui parle. J'ai raison de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont mariés. J'ai raison de parler de ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont fiancés et qui pensent se marier. J'ai raison de parler de ce sujet aujourd'hui parce que le jeune homme qui a 15 ans, la jeune fille qui a 13 ans, qui est là parce qu'on commence à venir ici à 13, 14 ans, doit entendre ces choses pour savoir comment se préparer en temps utile et demeurer dans la prière jusqu'à ce que le mariage viendra. Donc, tous avons besoin de cette information pour notre formation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'aide est définie comme une action d'unir ses efforts à ceux d'une autre personne. Aider, donc j'unis mes efforts aux efforts de cette autre personne. C'est aussi un soutien sensible. L'aide, un soutien sensible. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai quelqu'un qui viendra unir ses efforts à tes efforts à toi. Donc tu n'as pas besoin de demeurer seul. À un certain moment, tes efforts ne suffisent pas. Tu as besoin des efforts d'un autre. Là, je m'adresse aux gens qui méprisent leurs partenaires. Oh non, mais tu vois, c'est moi l'homme, c'est moi qui fais. Non, non, tu ne fais pas tout. L'homme ne fait pas tout. Même si la femme là ne travaille pas, ce n'est pas toi qui fais tout. L'équilibre que tu as dans ta vie depuis que tu t'es marié est apporté par cette femme-là que Dieu a amenée dans ta vie. Oh, alléluia. Nous devons avoir des gardes vis-à-vis de nos partenaires. Si je suis une femme vis-à-vis de mon mari, si je suis un homme vis-à-vis de ma femme, nous devons nous avoir de la considération les uns les autres. De la considération, un respect mutuel. L'autre doit être considéré comme un partenaire à part égale. L'autre doit être considéré comme un associé à part égale. L'autre doit être considéré comme un soutien. L'équilibre de ma vie. Le contrepoids de ma vie. Le face-à-face de ma vie. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous, Église, nous devons valoriser le mariage. Les jeunes gens qui sont encore tout jeunes. Je me souviens, quand nous étions jeunes, nous avions un pasteur Mafuta qui était aumônier de UPEN, IPEN à ce temps-là. Et qui venait assez, on invitait à la jeunesse, surtout dans le domaine de, où il fallait parler aux jeunes par rapport au mariage et autres. Il disait, un jeune homme déjà à l'âge de 15 ans, même s'il va se marier dans 10 ans, doit déjà commencer à 15 ans à prier pour son mariage. Le mariage, blaguons avec autre chose, mais ne blaguons pas avec le mariage. Il y a 3, 4, 5 ans en arrière, je n'aimais pas qu'on m'invite prêcher au département des couples. Il y a 5 ans en arrière, un peu plus, je me disais, je ne suis pas encore assez préparé pour prêcher au couple. Mais là, je sens que ça déborde dans mon cœur maintenant. Pourquoi ? Je sens que il y a de l'expérience qui commence à parler maintenant. 20 ans de mariage après, je sens que j'ai des choses à communiquer. Et l'Église doit pouvoir se préparer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons avoir une Église bénie. Et l'Église n'est bénie que lorsqu'elle est composée de couples forts. Alléluia. Des couples forts. L'aide, c'est une action d'unir ses efforts à ceux d'une autre personne. C'est aussi un soutien sensible. Amen. Un soutien sensible. L'aide semblable, semblable est définie comme étant de même apparence, définie comme étant de même nature. C'est cela semblable. De même apparence, de même nature. Donc cette aide que Dieu t'apporte est vraiment de ta nature, de ton apparence. Le Seigneur dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et dans l'Ancien Testament, ce mot « aide » est souvent utilisé pour exprimer l'aide, le soutien que Dieu apporte à son peuple. Nous pouvons dire que le partenaire, l'âme sœur que nous trouvons dans la vie à ce moment de notre vie, donc parcours, est une aide, est un grand soutien que Dieu nous apporte pour notre bien-être. Alléluia. Pour notre bien-être. Sachez que l'homme étant un être humain est fait pour vivre à côté d'un autre. Et ceci dans une parfaite harmonie. C'est cette cohabitation harmonieuse qui apporte un certain équilibre à l'homme pour un rendement meilleur dans la vie. On s'améliore dans son rendement à cause de la venue de l'autre. On s'améliore. Alléluia. J'ai enseigné plusieurs dimanches ici, il y a plusieurs années en arrière, peut-être qu'on reviendra. Il dit, le projet échoue, faute de conseiller. Si tu n'as pas une conseillère, tu n'as pas un conseiller, si ta femme n'est pas ta conseillère, si ton mari n'est pas ton conseiller, pourquoi êtes-vous marié alors? Il faut savoir ouvrir son oreille pour écouter sa femme. Il faut savoir ouvrir son oreille pour écouter son mari. Parce que c'est parmi les rôles que la personne, que Dieu t'a amené, c'est de jouer le rôle de conseiller ou de conseillère. Toi, tu dis non, qu'est-ce qu'elle a encore à me donner? Quel conseil peut-elle me donner? Non, elle a quelque chose à te donner. Sinon, Dieu ne l'amènerait pas à tes côtés. Oh, alléluia. Oh, alléluia. L'homme ne peut vivre sans l'autre. Quand l'homme Ish était tout à fait seul, quand ce dernier ressentait et vivait sa solitude, Dieu fut le premier à faire les constats et finit par dire, il n'est pas bon que Ish soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Sa Isha. L'homme masculin, c'est Ish en hébreu. Et l'autre, la femme, c'est Isha. Une aide qui soit son vis-à-vis, son contrepoids, son complément. Une sorte de rééquilibrage. C'est l'autre qui vient rééquilibrer ta vie. Alléluia. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire, dit la Bible de l'avenir. Et dit, je lui ferai, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. L'autre est un partenaire. Dès l'origine, l'être humain est un être avec. Dès l'origine, l'être humain est un être avec. Il ne peut pas être un être sans l'autre, mais c'est l'être humain avec.
dont l'épanouissement ne se réalisera que dans la relation à l'autre ou avec l'autre. L'épanouissement ne se réalise que dans la relation avec l'autre. D'une façon générale, il est impossible de vivre seul. Quand vous êtes seul, surtout quand vous étiez habitué à vivre avec les gens, vous sentez le vide. En tout cas, toutes ces semaines, heureusement que ça s'arrête ces semaines. Toutes ces semaines, j'ai senti le vide. Heureusement que j'ai intercalé, je suis allé à Kimpese, et puis je suis allé à Goma. Mais tu rentres dans la maison, je dis waouh. Alors, la consommation, maintenant tu commences à parler tout le temps en téléphone. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous voulez même savoir, ils sont sur quelle avenue dans tel. Donc, et tu consommes sérieusement. Pourquoi? Tu te sens seul. Moi, je ne peux pas vivre seul. En tout cas, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne pouvais pas être quelqu'un servant Dieu célibataire. Non, non. J'allais être vraiment un faux célibataire. Et sachant que j'ai Dieu là, on le sert avec tous les sérieux du monde. Moi, je ne voulais pas aller porter quelque chose là. Et puis tu penches la tête. Non, non. Moi, je devrais être un homme en costume, prêchant la parole et regardant ma femme là-bas. Nazolula Kaye. Oh, amen, amen. Comment vivre sans la femme? C'est impossible. Moi, je ne peux pas vivre sans la femme. Ma femme. Oh. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme, quand tu as trouvé la femme, la Bible dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. On ne blague pas avec ça. Moi, j'ai le bonheur. C'est comme ça quand je vous parle là, quand je mets un peu mes mains dans la poche pour vous dire que j'ai trouvé le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Une femme m'a aimé. Aïe, aïe, aïe. Oh. Une femme m'a aimé. Amen. J'étais en train de dire à Goma, j'ai dit, on disait que j'avais une grosse tête dans ma famille quand je grandissais. Je vous ai déjà dit ça, n'est-ce pas? Et à ce moment, on ne disait plus rien, on faisait ça. En avait ma kintu. Mais les jours où je me suis rendu compte, en me murant, je dis, mais non, 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 non. On m'a toujours menti. Et ça, c'est moi. J'ai vu, il y avait une beauté terrible. Mais je disais à Goma, mais preuve, une belle femme m'a aimé. Amen, amen. Qu'on ne te trompe pas, tu es une créature si merveilleuse. Si les autres ne voient pas ta beauté, une autre personne verra. Oh, alléluia. Une autre verra que tu es important, tu es intéressant. Amen, amen. Alléluia. Ah, moi je suis fier. Quand je suis avec ma femme partout, je dis, ouais, ouais, ma femme. Oui, mais oui, tout le monde doit savoir que c'est elle ma femme. Oh, alléluia. Toi, tu te caches? Tu ne veux pas qu'on sache que c'est ta femme. Il faut être fier de sa femme. Et la femme, c'est comme un jardin. Le jardin, il peut avoir de l'herbe sauvage. Pourquoi? Parce que tu n'entretiens pas. Mais si tu entretiens, il n'y aura pas d'herbe sauvage. Et tout le monde va aimer, va apprécier. Ah, quel jardin! Oui, il y a quelqu'un qui travaille là. Oui, tu as peur et honte de présenter ta femme parce que tu as laissé ton jardin en laissant l'herbe pousser. Prends soin seulement d'entretenir ton jardin. On commençait à dire, ça c'est ta femme. Dieu dit, oui, celle-là c'est ma femme à moi. Amen, amen. Oh, alléluia. Le mariage est un don de Dieu. Amen. Les jeunes gens qui sont là doivent apprendre ça. Et prier pour leur mariage qui interviendra dans 5, dans 10, dans 15 ans. Et j'en passe peut-être. Donc, prier pour cela. Je disais que, dès l'origine, l'être humain est un être avec, dont l'épanouissement ne se réalisera que dans la relation à l'autre ou avec l'autre. Je considère pour ma part que la vie en société est un ensemble de plusieurs ingrédients. Faute de tout cela, l'épanouissement harmonieux ne restera qu'un rêve ou un souhait inassouvi. Nous avons besoin de comprendre cela. Dans la vie de toute personne, Dieu est indispensable. Ah, j'insiste. Dans la vie de toute personne, Dieu est indispensable. Et l'autre est nécessaire. Dieu est indispensable. On ne peut pas le remplacer, mais l'autre est nécessaire. L'importance de l'autre nous est encore bien brossée dans Ecclésiaste, au chapitre 4. Verset 9 est le suivant. Oh, j'aimerais qu'à la parole éternelle, nous ayons, bien aimé, la compréhension du mariage et que nous ayons le respect du mariage. Alléluia. La compréhension du mariage et le respect du mariage. Ecclésiaste 4, 9 à 12 nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Donc deux sont mieux qu'un. Parce que à deux, ils retirent un bon salaire de leur travail. Seul, on peut retirer un salaire. Mais à deux, on retire un bon salaire. Car ici, il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Alléluia. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, tu étais seul, ton ennemi t'a vaincu. Mais lorsqu'un autre vient à tes côtés, à deux, vous lui résistez. Alléluia. À deux, vous résistez à votre adversaire, vous résistez à votre ennemi. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. La corde à trois fils, pas à deux, à trois fils. Là, rapidement, nous disons, Christ est le troisième fil de la corde. L'homme est l'un des fils, la femme est aussi l'autre fil, et tout le tout constitue la corde. Le trois, pas les deux, mais le trois, Christ, l'homme et la femme, constituent la corde. Amen, amen. Là où tu réussissais à 35%, il convient que lorsque l'autre vient, tu ailles ne fût-ce qu'à 60%, ne fût-ce qu'à 55%, ou carrément en doublant à 70%. Mais si, là où tu réussissais à 35, tu commences à échouer, tu allais jusqu'à 20, à 18, quelque chose ne va pas. Et l'on peut conclure que tu t'es mal marié. L'autre doit venir t'apporter un plus. S'il n'apporte pas l'égal de ton apport, il doit maintenant apporter ne fût-ce qu'un plus. Il faut qu'il y ait un plus. Tu avais 35, s'il y a un plus, au moins 40. On dit non, tu es en train de monter. L'autre t'apporte un plus. Alléluia. Donc quand tu vas t'associer à l'autre, c'est pour que vous réussissiez mieux que l'autre ne réussissait lorsqu'il était seul. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, donc là, j'anticipe encore pour dire que lorsque tu t'es marié et tu commences à avoir voiture, maison, ta femme ne travaille pas, c'est toi qui apportes. Ne dis pas que tu réussis seul. Nous avons parlé de trois fils dans la corde. Tu réussis à cause de Christ, mais tu réussis à cause de la femme que Dieu t'a donnée.
Amen.
Oh, il suffit que cette femme commence à pleurer au-dedans d'elle. Les Balouba disent les kanyinga-nyinga. Donc quand la femme commence à kanyinga-nyinger, tu vas avoir des problèmes.
Amen.
C'est comme si elle t'a ensorcelé. Parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Et elle n'est pas à l'aise. Elle pleure. Elle commence à dire, ah, l'homme de ma vie. Toi, tu commences, maintenant que tu as maintenant voiture, maintenant tu connais toutes les communes. Tu as tout le temps, le directeur te retient. C'est toi toujours qu'on retient par les ministres. Et hein, quand vous suivez des fils en aiguille, ce n'est pas les ministres. C'est la petite Chantal. Et la femme commence à se plaindre. Tu vas avoir des problèmes. Parce que la femme de ta jeunesse n'est pas d'accord avec toi. Et la faveur de Dieu ne peut plus couler dans ce que tu fais. Il ne faut pas mépriser la relation. Vous avez pris l'engagement devant Dieu, devant les hommes. Le ciel a été témoin. Oh, alléluia. Alléluia. Jeunes gens, quand vous entrez en mariage, il ne faut pas blaguer. Réfléchissez deux fois. Quand vous entrez dans les mariages, vous entrez dans un cercle, c'est fermé, on ne sort plus. Et on doit honorer la personne avec qui on est dans le mariage. On doit pouvoir l'honorer. Et ceci vice-versa. Il y a des femmes compliquées hein, qui rendent la vie dure à leur mari. Et l'homme n'est plus tranquille. Attention, nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, nous aider dans les liens du mariage où Dieu nous a conduits. Quelqu'un dit Amen. Lorsque, je voulais dire que quand quelqu'un s'est bien marié, on sait voir le changement qui s'est produit dans sa vie. On sait voir le changement. En tout cas, prenez mes photos avant mon mariage et maintenant. Vous n'avez même pas besoin que j'ouvre la bouche pour vous parler. Vous allez dire, cet homme a vraiment changé. Amen. Mes enfants ont vu les photos de mariage. J'avais une grosse moustache là, non? Barbe là ici. Dit, papa, vous étiez comme des Tintins. Mince là. Vous pensez que le changement là, ce n'est pas moi-même? Il y a une femme qui a travaillé. Autrefois, on s'habillait comme un arc-en-ciel. Tout ce que tu trouves avec être humain. Mais maintenant, on veille d'harmonie. Maintenant, même mes filles se sont mêlées dedans. Non, non, papa, non, non. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Regarde, si tu mets ça, la cravate ici, oui. Mais c'est l'équilibre que Dieu donne dans la famille. Amen. Oh, amen, amen, amen. Dieu nous donne cet équilibre dans la famille. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Cet homme trouve l'équilibre qui lui manquait grandement. Mais lorsque dans un foyer, l'harmonie, la complicité venait à manquer, la condition de cet homme devient pire que celle d'un célibataire. C'est vivre les préludes de l'enfer sur la terre, lorsqu'il n'y a pas l'harmonie dans un foyer. Et là, vous commencez à voir les gens qui commencent à prier parce qu'il a un peu la crainte de Dieu. Il dit, je ne peux pas divorcer, mais je ne peux plus continuer à vivre avec cet homme. Je ne peux plus continuer à vivre avec cette femme, mais je ne peux pas divorcer. Que faire? Alors, comme il ne peut pas assassiner lui-même son mari, et elle-même son mari, comme il ne peut pas assassiner lui-même sa femme, il commence à prier, Seigneur, yakozo mutunayo. Donc, assassine-le toi-même. Tu veux maintenant que Dieu puisse assassiner, puisse devenir un assassin? Yakozo mutunayo. Nalembi, yakozo mutunayo. Toi, tu es là, tu ne sais pas qu'on prie pour toi pour qu'on vienne te chercher. Comme ça va être propre. Un assassinat correct, Dieu lui-même s'est chargé de l'affaire. C'est pourquoi il faut soigner le début. Quand on dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ce n'est que dans la mesure où le commencement était bon, que la fin sera mieux que le commencement. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Mais le commencement, il doit être bon. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est ce qui commence bien qui va se terminer bien. Tu es complaisant dans ton choix. Tu blagues avec ton choix. Lorsque même on te donne des conseils, tu dis, oh non, moi je l'aime. Tu l'aimes? Je l'aime. Qu'est-ce qui t'intéresse, sa beauté? Aza, y a mon tanné. Elle présente bien. Il faut voir quand elle marche. Hein? Quand elle marche. Hein? Le mariage, ce n'est pas résumé seulement par la démarche dandinante. Non, il y a mieux que ça. Parce que ces corps-là qui se balancent avec équilibre de part et d'autre, peut te produire un démon. Ouais. Tu peux avoir dans ces corps dandinants-là un sorcier. Et la sorcellerie n'a jamais été cause de divorce. Hein? Si tu te maries, on conclut, vous signez tout, ok, paf. Et puis après, quand tu vas dormir, tu réalises que cette personne... Mais là, tu commences... Quand tu te réveilles, tu commences à te poser la question. Nuitamment, tu la vois, tu dis, elle est là ou elle est partie? Tu garderas ta sorcière. Oh! Tu garderas ta sorcière. Parce que la sorcellerie n'est pas cause de divorce. Si tu veux honorer ton Dieu, tu ne dois pas divorcer parce qu'elle est sorcière. Tu ne dois pas divorcer parce que non, elle a volé. J'avais appris que là où elle va travailler, elle a volé. Non, ça, ce n'est pas une cause de divorce. Tu vas garder ta voleuse. Ton voleur, tu le garderas. Oh! Jeunes gens, faites attention. Oh non, pasteur, il parle bien, il a fini en droit. Quand il parle vraiment, et même tu fais ton commentaire, toi, il m'a dit, jamais homme n'a parlé comme lui. Hein? Jamais homme n'a parlé comme lui. Vas-y. Ce n'est pas tout, ce n'est pas ce qui résume le mariage. Les bons mariages, non, n'est pas résumé par les bons parlés. Il parle français quand il articule. Oh là là, pasteur. Oh là là, oh là là. Moi aussi, je dirais oh là là demain.
Il n'y a pas que l'articulation qui compte. Amen, amen. Oh, pasteur, quand lui s'habille, c'est vraiment comme un jeune homme d'affaires anglais. C'est bien. J'encourage les gens à bien s'habiller. Là, j'ouvre une parenthèse. Jeunes gens, faites attention quand vous vous habillez. Habillez-vous bien, si c'est possible. Et habillez-vous proprement aussi. Il y a des jeunes gens qui pensent que les t-shirts de l'intérieur, là, les tout blancs, on peut les porter pendant une semaine. L'important, c'est de changer la chemise. Qui voit que j'ai gardé ça, les mêmes t-shirts? Qui voit? Le problème, c'est que l'odeur sortira. Quand tu passeras à côté des gens, les gens vont sentir quelque chose de mauvais. Mais je te dis vrai, tu as intérêt d'avoir un père qui peut te parler clairement comme ça. Il y a des jeunes gens, quand ils passent à côté de moi, je dis « Yesu ». Mon aîné, dans la foi, un de mes aînés enfants disait « Gandjur, Gandjur ». Vous voyez, quand vous voyez que les gens commencent toujours à faire ça, ce n'est pas qu'ils ont mal à leur nez. Le problème, c'est l'odeur qui... Attention, les t-shirts là, il faut les porter une fois, tu les déclares, tu les laves. Parce que tu as transpiré. Oh! Parce que tu viendras demander la main à une fille. Malheureusement, tu as porté le t-shirt que tu as porté il y a 7 jours. Et quand tu arrives, tu demandes la main. Elle est en train de faire ça. Il me cochicani. Et tu penses quelle est la réponse qu'on peut te donner? C'est un homme comme ça. C'est comme s'il a transporté 4 boucs à lui seul. Il faut faire très attention. J'étais dans la parenthèse. Je la referme. Il faut qu'on avance. 1 Corinthiens 7, verset 9 dit que si certains manquent de maîtrise, c'est Paul qui parle. Si certains manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà pourquoi je disais que le mariage est un élément régulateur de la société. Normalement, Paul dit, je conseille aux gens, verset d'avant, je conseille aux gens de rester comme moi. Parce que Paul était célibataire. Il y a eu des discussions, non, avant il était marié, non, je n'entre pas dans ces détails-là. Paul, en ce moment qu'il écrit, il est célibataire. Il dit, je conseille aux hommes de rester comme moi. Mais si quelqu'un ne peut pas supporter, demeurer, ces vrais célibataires comme moi je le suis, si quelqu'un ne peut pas, qu'il se marie au lieu de brûler. Ça signifie qu'il ne faut pas brûler au point même d'aller tomber, aller avec une femme qui n'est pas ta femme. On ne peut pas. Les relations sexuelles sont un don de Dieu. Je l'ai dit à Goma. Les jeunes gens pensaient que j'ai dit. Quand on dit comme ça, les jeunes gens ouvrent les yeux. Hein? C'est un don de Dieu. Pasteur, nous voulons que vous puissiez répéter encore ça. Oui, je répète, les rapports sexuels sont un don de Dieu. Pasteur reprend encore. Je répète, les rapports sexuels sont un don de Dieu. Mais seulement, c'est un don qui s'exprime dans un cadre donné. Le mariage, ce n'est pas en dehors du mariage. Voilà le cadre d'expression de rapports sexuels. Le mariage. Or, on ne se marie pas à la longueur de la journée. On ne se marie pas, on se marie à Bandal, on se marie à Kitambo, on a encore une concubine. Non, non, ça, ce ne sont pas des mariages. Le mariage, c'est avec la femme de sa vie, c'est avec l'homme de sa vie. C'est là, dans ce cadre-là, que s'exerce le rapport sexuel. Dès que je sors, je n'ai plus ma partenaire, je n'ai plus mon partenaire, je reste, j'attends que mon partenaire soit là. En dehors de cela, je ne vis pas cette partie de vie-là. Je ne la vis pas. Je ne la vis pas. Oh. Jeunes gens. Donc, quand vous allez avec une fille, jeune homme, jeune fille, tu vas avec un garçon, tu n'es pas marié. Tu enfreins la loi de ton Créateur, de ton Seigneur, celui que tu aimes. Et même ta conscience parle. Le mariage est un élément régulateur de la société. Et s'il n'y a pas le désordre, il n'y a pas le désordre, on sait que ce monsieur est marié à cette femme est mariée à ces messieurs. Si elle est grosse, c'est avec ses, on les voit toujours ensemble, donc elle est mariée. Pas une grossesse, on ne voit pas l'homme. On voit comment seulement ton ventre commence à se développer. Puisque la grossesse ne va pas derrière, le ventre va toujours devant. Oh.
Parce que chaque rapport sexuel est une possibilité de concevoir. C'est pourquoi on ne peut pas aller avec n'importe quelle femme. Ah, j'ai décidé de parler ce dimanche qui vient ici, de parler sur ce sujet. Et la bénédiction est dans la maison de tous ceux qui honorent le mariage. La faveur de Dieu est dans la maison de tous ceux qui honorent leur partenaire. Tu n'honores pas ton partenaire, tu amènes la malédiction dans ta maison. Même si personne ne le sait. Te voilà, tu reviens. 2 jours d'absence, tu as dit à ta femme, je suis à mission de service à Boende. Boende, c'est où? Boende, c'est Ngaba. Et on revient, dis donc, je viens de la mission. Mission de service. Personne ne le sait. Tu n'as pas pris l'avion, tu n'as pas pris le bateau, mais tu es allé à Boende. Et tu es revenu aussi 2 jours après. Tu étais en mission de service. Et maintenant, quelqu'un dit, pasteur, comment tu sais toutes ces choses-là? Tu parles à mon cœur. Oui, l'Esprit est en train, pas moi, l'Esprit est en train de parler à ton cœur. Qui n'aimerait pas être béni? Mais nous disons dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire ici, que la bénédiction, c'est quand nous honorons le mariage. Quelqu'un dit amen.
Amen.
Mais Paul prend soin, je termine par là, Paul prend soin d'apporter une précision. Parce qu'il dit que si certains manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que de brûler. Je disais que Paul prend soin d'apporter une précision importante. Dans ce même chapitre, verset 39, il dit en disant, vous êtes libre de vous marier avec n'importe qui, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Hein? Seulement dans le Seigneur. Là, je vais revenir. On ne se marie pas en dehors du Seigneur. Si tu as connu le Seigneur après ton mariage, d'accord, tu vas garder cet homme-là. Tu ne peux pas changer de mariage, en changer de femme, de mari, en disant que maintenant que je suis converti, celui-là, ce n'est pas l'homme de ma vie, ce n'est pas la femme de ma vie, comme on en parle à Kinshasa, la femme du ministère. Waouh! Donc je suis saute là, je commence à vous dire ici, vous commencez à entendre dans mes langages, je dis non, il faut que je prenne la femme de mon ministère. Donc Yvette n'est plus la femme de mon ministère. Il faut vous lever du pasteur, tu es devenu sorcier. Oui, oui, il faut le dire, il faut me le dire. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. La femme que tu as épousée avant de connaître le Seigneur, là, c'est ta femme devant Dieu. Dieu l'a reconnue comme ta femme. Quand tu te convertis, tu dois la garder. Amen, amen. Oh, alléluia. Pour vous qui se convertissez après votre mariage, nous sommes mariés dans le Seigneur. Nous avons eu cette opportunité de nous marier dans le Seigneur, 20 ans en arrière. Il n'y a pas à voir chercher une femme de ministère. Ça, c'est de la convoitise. Tu vois des petites filles dans l'église, tu commences à dire, non, je cherche la femme du ministère. Et toi aussi, la petite fille, tu viens te présenter comme étant la femme du ministère, la sorcière. Depuis quand toi, tu es devenue la femme du ministère de ce papa-là? Vous voyez, il y a un désordre. C'est mon devoir de vous parler des désordres des pasteurs, des désordres que les pasteurs sont en train de faire. Et Dieu a déjà parlé, Jésus avait parlé des faux pasteurs. Il y en a. Il y en a un qui a divorcé dans cette ville, qui a pris une femme. Maintenant, la femme-là le fait voir les noirs et les rouges. La jeune dame-là, elle s'habille, le pantalon comme ça, là, donc avec les sous-vêtements, se voit. Quand on dit, mais yo, c'est maman pasteur fashion. Et ces messieurs-là, ces pasteurs-là, ils envoient de toutes les... Oui, tu as voulu changer, tu as voulu mettre à la porte la femme qui t'a supporté dans le ministère, qui comprenait la valeur, l'importance du ministère, pour aller prendre cette petite, tu n'as vu que son corps. Ah, je prie à Dieu, Seigneur, donne-moi de vieillir avec la mienne. Donne-moi de vieillir avec elle. Oh, alléluia. Alléluia. Ah, église, j'aimerais, je vous livre mon... J'ai toujours dit ça, j'aime ma femme. Je l'aime. Elle a joué un grand rôle dans ma vie. Et elle continue à jouer un grand rôle. J'ai dit, Seigneur, heureusement que tu m'avais donné celle-ci. Amen. Nous sommes en train de parler sur ces sujets. Ça intéresse et toi, le jeune homme, la jeune fille, et toi, le papa marié, toi, cette maman mariée. Sois cette maman qui a des enfants pour savoir comment conseiller. Prier, n'impose pas, mais prie. Aide tes enfants à bien se marier. Ça sera aussi ta joie. Quand ton enfant se marie mal, quand il souffre là-bas, toi aussi tu souffriras. Que Dieu nous bénisse ce matin. J'aimerais que nous puissions nous lever, même si nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons prier. Jeune homme, comment tu aimerais prier? Prie pour ton mariage. Même s'il va revenir, il va venir dans 15 ans, mais prie. Dis Seigneur, donne-moi de bien me marier. J'aimerais que les parents prient pour leurs enfants. J'aimerais que ceux qui vivent, vous-même priez pour votre mariage. Quelque chose ne va pas, mais Dieu peut corriger cela. Élevons nos voix, battons nos mains et demandons à Dieu de pouvoir nous visiter. Ah, j'aimerais que l'Église prie vraiment.